Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. François Doss, bonsoir. Merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour parler de Castoriadis et du livre que vous avez sorti récemment à la découverte, Castoriadis, une vie. Vous êtes historien et épistémologue spécialisé en histoire intellectuelle. Vous avez fondé la revue Espace-Temps et co-dirigé actuellement la collection Écriture de l'histoire à la découverte. Vous êtes par ailleurs professeur d'histoire à l'UFM de Créteil et enseignant à l'IEP de Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'histoire du structuralisme, des biographies de Paul Ricoeur, Pierre Nora, Michel de Certeau, une biographie croisée de Deleuze et Guattari. Et en 2014, vous avez publié deux ouvrages, Les Hommes de l'Ombre, portrait d'éditeur chez Perrin, et l'ouvrage pour lequel nous sommes heureux de vous accueillir ce soir, Castoriadis, une vie, donc publié à la découverte. Ce livre est la première biographie de Castoriadis, et ce que vous dites en exergue de l'ouvrage, c'est qu'elle est née d'un paradoxe, hein, à savoir comment expliquer qu'un homme, qu'un penseur aussi important que Castoriadis, qualifié de titan de l'esprit ou d'Aristote en chaleur par son ami Edgar Morin, et qui a influencé bon nombre de penseurs actuels, finalement est resté peu connu du grand public, est resté toujours marginal. Marginal. Donc comment expliquer ça quasiment 20 ans après sa mort?
Bien. Alors merci d'abord pour cette invitation qu'effectivement je me réjouis que vous soyez quand même un nombre certain pour cet illustre inconnu qu'a au bataillon, parce qu'effectivement Castoriadis c'est quelqu'un qui a joué un rôle on va y revenir, extrêmement important dans la vie intellectuelle de ce pays, mais en même temps, il souffre incontestablement d'un déficit de visibilité, c'est le moins qu'on puisse en dire, je suis plutôt content parce que ma biographie est parue en septembre, manifestement, non seulement elle a trouvé son public, et c'est pas terminé, mais en plus, l'œuvre de Castoriadis, manifestement, je pense que vous pouvez le confirmer, commence à reprendre un peu et à trouver un lectorat qui s'était un peu perdu. Bon, sur une œuvre difficile. Alors pourquoi, première question que vous me posez, qui n'est pas simple, les réponses sont multiples, et toutes valides. Pourquoi ce déficit de visibilité effectivement, de quelqu'un qui, vous l'avez dit, est qualifié par son ami Morin de titan de l'esprit, qui est qualifié par Pierre Vidal-Naquet, qui est quand même une autorité pour ce qui est de l'histoire de la Grèce, comme un génie. Et Vidal-Naquet était plutôt avare de compliments. Qualifié aussi de très grand intellectuel, l'homme le plus intelligent qu'il ait rencontré, par le psychanalyste André Green, ce qui n'est quand même pas rien, c'est une autorité sur le plan de la psychanalyse absolument incontestable, et lui aussi qui distribue avec parcimonie les compliments. Donc c'est dire. Et puis, qui dirige aujourd'hui l'association Castoriadis? Vincent Descombes, qui est un grand philosophe, incontestablement. Bon, voilà. En même temps, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de son acolyte, son frère d'armes, sur lequel on aura l'occasion de revenir, avec lesquels les rapports ont été quelque peu mouvementés, Claude Lefort, qui est davantage lu, connu, qui a sa place, que Castoriadis. Alors pourquoi? Première raison, me semble-t-il, c'est le caractère très transversal et justement très riche, et beaucoup plus riche que beaucoup d'autres, de Castoriadis, le fait qu'il, et on est dans un pays, moi j'ai déjà vu ça quand j'ai fait ma biographie de Michel de Certeau. Comment classer Michel de Certeau? Bon. Jésuite, historien, sociologue, anthropologue, spécialiste de l'histoire du religieux, c'est un problème. Et c'est un problème dès la librairie, où classer ses livres? Bon. Eh bien, pour Castoriadis, le problème se pose parce que, et on va y revenir, il est à la fois philosophe, mais il est aussi économiste, et il a été longtemps un grand fonctionnaire international à l'OCDE, mais il est aussi psychanalyste, et bon, il a... Il ne s'est pas intéressé à la psychanalyse, il a été psychanalyste professionnellement. Il a été militant, il a dirigé une revue, il a beaucoup d'autres cordes à son arc. C'est bien où classer ses textes. Et on aime bien en France, peut-être, je ne sais pas, l'esprit cartésien, avoir des cases. Pour mettre bien rangés les livres par auteur, avec les plus petits et les plus grands livres. Voilà, c'est première raison. Deuxième raison, et je prendrai là le titre d'une série parue au Seuil, de ces textes, de ces articles, « Les carrefours du labyrinthe ». Bon. Effectivement, ce n'est pas facile de rentrer dans son œuvre. On ne sait pas par quelle porte entrer, et dans un labyrinthe, on ne sait pas non plus par quelle porte sortir, propre d'un labyrinthe. Bon. C'est vrai qu'il y a un côté prolifique, proliférant de son œuvre, sur lequel il s'est donné du mal pour la publier, bon. Mais en même temps, il ne s'est pas donné le mal de faire des textes un peu introductifs. C'est bien quand on me dit comment commencer à lire Castoriadis, par quel texte commencer, je suis un petit peu ennuyé parce que il n'y a pas l'équivalent de ce que, pour prendre l'exemple d'un philosophe que j'ai biographé, comme Paul Ricoeur, qui est une œuvre aussi absolument énorme, je dirais à quelqu'un qui veut commencer à plonger dans l'œuvre de Paul Ricoeur, de commencer par La critique et la conviction, son œuvre de dialogue avec François Azouvi et Marc Delaunay, où il retrace son parcours. Ou, pour les philosophes de profession, je leur dirais de lire ce petit texte très synthétique et très difficile, qui est Réflexion faite, où il fait un regard réflexif sur son parcours. Castoriadis ne s'est pas donné le temps de faire cela, peut-être aussi faute de temps, parce qu'on y reviendra. Il a de multiples casquettes et de multiples responsabilités. Un autre aspect de son déficit de visibilité, c'est qu'il a été, alors c'est peut-être un aspect assez grec, il a été très polémique et très polémiste. Et il a été à ce point dur, alors que c'était un homme manifestement, enfin moi je ne l'ai pas, pas dire je l'ai connu, j'ai fait un entretien avec lui. Vous rappeliez que j'étais dans une petite revue qui s'appelle Espace-Temps. Il m'est arrivé, effectivement, à la fin des années 80, on était en 1988, 20 ans après 68 et un an avant le bicentenaire, la commémoration du bicentenaire, on avait fait un numéro sur concevoir la révolution, la notion de rupture. Et on avait fait un certain nombre d'articles. Certains avaient été voir Edgar Morin, Régis Debray, etc., les préparateurs du bicentenaire. Moi, j'avais été voir Castoriadis, que je ne connaissais pas, et j'avais été voir Uri Lalbony, où j'ai fait un entretien avec lui. Donc, on va dire que je le connais. Hein, ce n'est pas ça qui permet de le dire. Mais d'un autre côté, on peut dire qu'il a été assez seul, assez isolé, parce que il s'est d'une certaine manière isolé lui-même par sa plume. Il était très chaleureux, méditerranéen, accueillant. Bon, c'est le témoignage que m'a donné un Marcel Gaucher, qui a beaucoup travaillé avec Castoriadis. On y reviendra peut-être. Mais en même temps, dès qu'il prenait la plume, bon, l'hubris, la démesure grecque allait dans le sens de quelque chose de très... polémique, de très violent sur ses adversaires. Bon, alors, évidemment, quand il qualifie dans l'institution imaginaire de la société Deleuze et Guattari de gaga, bon, on peut difficilement après avoir d'excellentes relations avec Gilles Deleuze et Félix Guattari. Autre aspect du manque de visibilité, c'est que beaucoup ont lu Castoriadis sans le savoir, comme Monsieur Jourdain. Pourquoi ? Parce que, et on y reviendra, il a pris la nationalité française tard. Et il était membre d'une organisation qui se voulait une organisation révolutionnaire et un peu clandestine. Et donc, les gens qui le connaissaient, qui le lisaient, en France ou ailleurs, et même les gens qui le côtoyaient dans les réunions hebdomadaires pour l'animation de la revue, ne le connaissaient pas sous son nom, mais sous le nom de Chaulieu, sous le nom de Cardan, sous le nom, il en a pris d'autres, Coudray. Connaissez peut-être Coudray, et vous avez peut-être lu Coudray parce qu'il a fait un livre avec Edgar Morin et Claude Lefort, qui est très connu, qui s'appelle La Brèche, et qu'ils ont publié au mois de juin 1968. Mais c'est Lefort, connu, Morin, on ne peut pas dire qu'il n'est pas publié, Morin. Hein. Et Coudray, mais c'est qui Coudray ? Là, c'est Castoriadis. Alors, effectivement, 20 ans après, quand ils ont republié le livre, c'est Lefort, Castoriadis et Morin, où il assume son nom. Mais j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, non, on l'a découvert vraiment très tard, très tardivement, on s'est rendu compte que ce grec-là, c'est Cardan, je connais bien, je l'ai beaucoup lu, je n'avais pas du tout fait le lien, etc. Bon, donc c'est aussi... Et puis... Autre raison, à mon avis, c'est qu'on y reviendra, mais Castoriadis a maintenu jusqu'au bout, même s'il a évolué, comme tout le monde, avec le monde qui est le sien, et en réfléchissant sur ce monde, dans cette plongée, il a beaucoup réfléchi, mais en même temps, il est resté fidèle à l'idée de révolution. Or, chacun sait que cette idée de faire une révolution a connu... un destin funeste d'abord, et puis beaucoup ont pris leur distance et des distances maximales par rapport à l'idée de cette idée de rupture révolutionnaire. Alors, certes, dans son idée de rupture révolutionnaire, c'était pas le modèle bolchevique qu'il défendait, on y reviendra, c'est un certain type de révolution. Mais la notion de révolution, dans un moment qui est un moment de basculement de notre régime d'historicité, je dirais depuis les années 1970, et ça s'est accentué depuis les années 1980, évidemment, était peu favorable à la réception de l'œuvre de Castoriadis, et a joué, évidemment, pour Lefort, qui ramassait la mise. Et puis, une autre raison, alors là, qui joue et pour Lefort et pour Castoriadis, c'est que, et qui m'a beaucoup sollicité pour le choix de cette biographie, c'est qu'ils ont été victimes... ces intellectuels qui sont illustres de socialisme ou barbarie, parce que si on prend les gens qui ont été à socialisme ou barbarie, non seulement il y a Lefort et Castoriadis, mais il y a aussi un grand psychanalyste qui a fait un petit tour au tout début de socialisme ou barbarie, c'est Jean Laplanche, que vous connaissez tous, du dictionnaire Laplanche-Pontalis. Et vous avez aussi Gérard Genette, connu de tous les spécialistes de Barthes, puisque c'est un grand ami de Roland Barthes, grand sémiologue bien connu pour ses figures 1, 2, 3 et tous ses autres travaux où il fait autorité. Or, Genette a été un membre de socialisme ou barbarie. Puis Lyotard, que vous connaissez tous, Jean-François Lyotard, qui est arrivé un petit peu après. Puis Vincent Descombes, donc un certain nombre d'intellectuels qui ont quand même compté dans ce pays, qui montrent que ça. Or, c'est un courant qui a été, on verra pourquoi Castoriadis a joué un rôle absolument majeur, c'est que c'est un courant qui a été lucide très tôt sur la nature de l'Union soviétique et sur les pays de l'Est. Sauf que cette lucidité, et ils ne cessaient de l'écrire dans leurs articles, qui ont été le fond, le contenu de Socialisme ou Barbarie, mais ce contenu, ils le prêchaient dans le désert le plus total, pendant très longtemps. Ils n'étaient pas lus, ils n'étaient pas écoutés. Quant à le nombre qu'ils étaient, était totalement dérisoire. Dérisoire, c'était le Club des Cinq en vacances. Ils étaient en rythme de croisière une trentaine sur la France. Évidemment, pour une avant-garde qui veut faire une révolution mondiale, c'est peu. J'ai trouvé alors le chiffre où vraiment qui a posé des problèmes d'organisation, d'ailleurs qui a suscité la rupture. Là, le chiffre le plus extraordinaire du nombre, c'était 87. Donc, c'est vous dire un peu. On parle là d'un microcosme, d'un tout petit groupe. Or, leurs thèses sont d'une extraordinaire clairvoyance, discernement, profondeur sur ce qui se passe. Ils ne trouvent pas de public. Sauf qu'il va falloir attendre pour qu'il y ait... Bon, il y aura des moments où ils commenceront à être entendus. Je pense à 56, par exemple, évidemment. Bon, on va refaire un peu l'historique et les grandes scansions où ils commencent à être entendus un petit peu par quelques... Bon. Mais le grand moment de basculement va être les années 70, ce qu'on appelle l'effet Goulag, Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu déjà, évidemment, des critiques, des dissidents, des réfugiés qui étaient écrits. Mais là, il y a un effet de masse. Et cet effet de masse, qui est-ce qui va en profiter? C'est pas socialisme ou barbarie, qui n'existe plus, puisque le groupe s'est autodissous en 67, et le dernier numéro de SOUB, c'est 65. Donc, il n'y a plus de SOUB. Et donc, ce n'est pas eux qui vont bénéficier de ce qui va devenir la doxa sur l'Union soviétique. C'est un phénomène que vous connaissez tous, qui est le phénomène des nouveaux philosophes. C'est-à-dire que c'est BHL, c'est Glucksmann, c'est Jean Bay, c'est Lardro, c'est le phénomène nouveau philosophe, avec une éditrice dont je fais le portrait dans Les Hommes de l'Ombre, personnage qui m'a ému par son parcours, hein, un peu aussi tragique, etc. Vous connaissez tous, qui est Françoise Verny, qui a créé le phénomène nouveau philosophe. Bon. Et ce phénomène a emporté complètement la mise. Et là, il y a une... Toujours en histoire, il y a des injustices. Bon, c'est comme ça, c'est des phénomènes ultérieurs qui font sortir un certain nombre de thèses, mais qui étaient enfouis et des gens totalement oubliés. Donc, je me suis dit que j'allais retirer du placard, hein, et des poubelles de l'histoire, ce courant qui est tout à fait majeur dans l'analyse du phénomène bureaucratique et de ce qu'était le phénomène stalinien. À ceci près que ça n'a pas été le seul objet de ce choix, parce que, et on y reviendra, il y a aussi, et malheureusement encore plus que ce que je pensais quand j'ai commencé le travail, une actualité de cette pensée qui nous aide surtout, et c'est surtout son intérêt, à penser notre présent, notre contemporanéité, et à répondre aux défis de notre temps. Alors, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que, et il faut quand même dire deux mots, du fait qu'il est grec d'origine. Et que là, je l'ai repris d'ailleurs en introduction, j'ai repris j'ai trouvé très pertinent ce que dit Enzo Traverso sur ce privilège épistémologique que peut avoir l'exil. C'est pas toujours le cas. Pas parce qu'on est exilé que tout à coup on a un privilège épistémologique. Non. Mais incontestablement, il y a là, effectivement, on peut là, c'est un bon exemple, Castoriadis, d'une espèce de privilège épistémologique qui fait qu'il voit plus clair que les intellectuels français et qu'il va essayer de déciler quelques yeux quand il arrive. Pourquoi ? Parce qu'il est porteur de la tragédie grecque. Et d'une tragédie qu'il a vécue au cœur de cette tragédie de manière absolument épouvantable. Bon, alors il faut commencer par dire quand même que Castoriadis, c'est un terme génie, c'est un terme fort, hein, mais en tout cas, il a des capacités titanesques, en effet. Ça, c'est absolument certain. Il a en Grèce, il fait toutes ses études en Grèce, il quitte la Grèce à 23 ans, à Athènes, même s'il est né à ce qu'il dit être Constantinople, mais qui on traduira par Istanbul, parce qu'on n'a pas le même rapport aux Turcs que les Grecs. Et alors, il a 3 mois, la famille quitte Constantinople pour Athènes, donc il suit toutes ses études à Athènes, où il a... Il est brillantissime, il est dans un petit collège très dur, hein, collège anglais, châtiment corporel, très sévère, hein, très la discipline. Hein, bon, discipline de fer, au point que une fois, je raconte ça, bon, il y avait un devoir supplémentaire, il n'arrive pas à le faire, son père lui dit tu vas te coucher, il garde le cartable par-devers lui, le petit Cornelius essaie de piquer le cartable pour faire quand même son devoir, le père il fait obstacle, il tente de se suicider. Bon, parce que c'est dire la sévérité du collège, parce que pour ne pas être humilié dans le collège, il essaie de s'électrocuter dans la salle de bain, et le père sévère aussi, mais il va quand même voir la direction du collège. Bon, donc, et le père va lui recruter une gouvernante, alors un personnage absolument hallucinant que j'ai découvert là encore dans cette enquête, qui vient de Lyon, qui est une passionnée de l'hellénisme, de la Grèce, enfin, un peu secouée, hein, la fille, parce qu'elle est, elle s'habille comme les Grecs antiques du 5e siècle avant Jésus-Christ, vous voyez, donc dans le climat de Lyon, c'est pas tout à fait approprié, mais enfin bon, elle détonne un peu, mais en tout cas, elle a une culture absolument phénoménale, elle est en thèse de philo, à la fois sur les mathématiques, sur l'ontologie, etc., et brillantissime, et une curiosité aussi littéraire, et là-dessus, le père, César, Castoriadis, dit, ben, qui ne veut qu'un enfant, un fils, bon, et qui est Cornelius et pas d'autres, dit, ben, venez à Athènes, puisque vous aimez la Grèce, hein, et vous allez vous occuper de mon fils. Bon. Le fiston, il a, le petit Cornelius, 10 ans, 12 ans, etc. Et à 10, 12 ans, le voilà qui se plonge dans Platon, Socrate, Proust, toute la littérature française. Avant 18 ans, il a déjà traduit en grec Max Weber. Il connaît tout le parcours philosophique et tout le corpus, plus une grande culture littéraire. Par sa mère, qui est très artiste, compose de la musique. Non seulement il joue au piano, mais il compose, et j'ai vu des partitions de ses propres compositions musicales. Bon. Et puis, il aura aussi une culture, alors là, c'est absolument phénoménal, parce qu'en général, les littéraires s'arrêtent quand même sur les sciences dures. Là, il y a ce qu'on appelle les sciences molles et les sciences dures. Alors là, les mathématiques, la physique mécanique et quantique, en général, les gens de formation littéraire s'arrêtent. Pas lui, parce qu'il s'est donné comme projet de penser tout ce qui est pensable. Donc, il n'y a pas de limite. Et il va consacrer beaucoup plus tard ses séminaires à l'École des hautes études en sciences sociales, à l'HESS. Il fera, par exemple, une année sur les mathématiques. Bon. Évidemment, l'assistance va petit à petit se clairsemer jusqu'à ce qu'il n'y reste quasiment plus personne. Et l'année d'après, il comptait consacrer à la physique. Et là, il a reculé. Il a dit, bon, cette année, je pense que je vais revenir un peu au problème de la psyché. Donc, ça a fait revenir un peu ces séminaristes, comme il les appelait. Mais c'est dire un peu le palais. Donc, des capacités absolument phénoménales sur le plan intellectuel. Et il va s'engager très tôt, puisqu'à 15 ans, il s'engage dans les jeunesses communistes. Quelques années plus tard, donc, il rentre au Parti communiste grec. Et très vite, dès 37-38, avant-guerre, ne se reconnaît plus dans la ligne de la Troisième Internationale stalinienne. Et il devient critique de l'orientation stalinienne. Bon. Là-dessus, ça rigole pas, parce que pour un stalinien, surtout grec, un bon trotskiste est un trotskiste mort. Bon. Donc, il devient trotskiste, critique, etc. Bon. Et avec un de ses copains, son copain et lui sont convoqués par le secrétaire de cellule dans une des collines qui surplombe Athènes. Heureusement pour Cornelius, c'est un homme à femme. Donc, il a toujours des rendez-vous galants, des jeunes filles en fleurs, etc., ici et là. Il a un rendez-vous galant, il ne peut pas aller au rendez-vous. Heureusement pour lui, sinon on n'en parlerait pas ce soir, puisque son petit copain, qui a dû s'expliquer sur ce pourquoi il prenait ses distances avec la cellule, s'est fait liquider physiquement. C'est comme ça qu'on réglait les différends. Hein. Lui a donc échappé à ce règlement de compte. Bon. Il adhère à la section grecque de la 4e internationale, donc Stinas, hein, Spiros Stinas, qui deviendra un ami. Et il est donc sur une base très critique par rapport au Parti communiste. Bon. Seulement, le problème, c'est que pendant la guerre, qui est-ce qui a libéré la Grèce ? C'est les forces communistes, les LAS, hein, l'armée dirigée par le Parti communiste grec. Qui tient la Grèce ? À 98%. Bon. Et comme vous le savez tous, je ne vous apprends rien, le sort de la Grèce est joué sur un bout de papier plus petit que celui-là, à Yalta, hein, avec un Staline qui a dit « Moi, je veux un cordon sanitaire. Hein, donc, tout ce qui est au bord de l'Union soviétique, c'est pour moi. Hein, la Bulgarie, la Hongrie, l'Allemagne, bon, tout ça, c'est à moi. » Et vous, bon, alors Churchill, il dit « Est-ce que je peux avoir la Grèce ?» Je dis « Pas de problème, je vous laisse les Grecs. » Bon. Et ça s'est joué comme ça, avec une Grèce... Et donc un pays libéré par l'Hellas, qui s'est auto-libéré par sa population et encadré par le Parti communiste et son armée. Mais sur le plan international, il faut que ce soit un pays capitaliste dirigé et lié à l'Angleterre. Problème épineux qui fait, par exemple, qu'au moment où le gouvernement de Papandréou, en décembre 1945, dit désarmer, ordre de désarmer les milices communistes, les communistes peuvent difficilement, comme ça, se laisser tout de suite désarmer. Donc, manifestations dans la rue, etc., Athènes, dans toutes les grandes villes. Castoriadis le raconte lui-même. Je veux dire, il y a encore, d'ailleurs, j'étais à Athènes il y a peu, vous avez la place de la Constitution, la Syntagma, et vous avez un très bel hôtel qui est l'hôtel d'Angleterre. Je disais, il suffit de 15 types qui aillent à l'hôtel d'Angleterre. Ils tenaient que la place de la Constitution. Et qui rentre dans l'hôtel, c'était fini, il n'y avait plus de pouvoir. Les communistes avaient le pouvoir, donc il n'était pas à prendre, il était à ramasser. Sauf que la direction du Parti communiste avait ordre de ne pas prendre le pouvoir, et donc ils ont tourné autour de la place de la Constitution. Hein? Donc c'était la révolution en faisant du sirtaki, ce qui n'est pas tout à fait la manière dont on fait une révolution sociale. Alors, vous avez un Castoriadis qui est, évidemment, dans une situation où il est chassé de partout. C'est-à-dire qu'il c'est, fait partie des ennemis publics numéro un qu'il faut éliminer, ou parce que c'est les forces grecques, etc., qui ont des milices très, très musclées, hein, qui le cherchent, ou cherchent l'ultra-gauche, etc., ou c'est des staliniens, et là, effectivement, à la fin, il est planqué dans la cave de son père, de sa famille. Et à un moment, César Castoriadis, son père, lui dit, voilà, le bateau est au Pirée, tu fais ton baluchon et tu fonces. Alors, ce qui s'est passé là...
En fait, il a obtenu une bourse.
Voilà. Ce qui s'est passé là, c'est un phénomène dont on peut être content, nous, Français, parce que la France y a été pour beaucoup. Et entre autres le responsable de l'Institut français d'Athènes, qui est un grand spécialiste de l'art grec, de la littérature grecque, qui s'appelait Octave Merlier, et qui a réussi à obtenir 180 bourses pour exfiltrer un certain nombre de jeunes étudiants grecs, qui, de gauche, engagé, mais qui, n'avait pas d'issue, hein, dans cette situation catastrophique de la Grèce, et qui leur ont permis de poursuivre leurs études de réussir leur carrière intellectuelle en France. Et vous avez là, sur ce bateau qui est devenu mythique, qui est devenu une espèce de lieu de mémoire et de télescopage de temporalité entre l'Iliade et l'Odyssée, Homère, et puis ce voyage vers Tarente, et puis cette montée dans les wagons à bestiaux, parce que ça n'a pas été une croisière de 5 étoiles, hein, wagons à bestiaux vers la Suisse, puis Paris, sur le Mataroa, C'est devenu d'ailleurs un lieu de mémoire dont on parle de plus en plus. Il y a même une pièce de théâtre qui se joue à la Cartoucherie à Paris, à Vincennes, sur, qui s'appelle le Matarois. Donc sur ce Matarois, vous allez avoir toute une série de gens qui sont des sculpteurs, des musiciens, des historiens, de... et puis trois philosophes très connus, grecs, qui vont faire une carrière importante en France, qui sont Castoriadis, Kostas Axelos, hein, que vous connaissez aussi, il a joué un rôle important, la revue Argument, etc., la collection Argument, bon. Kostas Axelos, et Kostas Papaoyannou, qui était aussi sur ce bateau. Bon, sur ces trois Grecs, il y en a un qui a failli tomber à l'eau. C'est que, mais ça, c'est une rumeur que j'ai pas repris dans le bouquin parce que, bon, je suis historien, donc il y a les rumeurs, et puis bon, je ne peux avancer que ce qui est attesté, recoupé, etc. Donc je n'allais pas avancer ça, mais la rumeur a couru et continue à courir pour certains que. Kostas Axelos, qui était encore au Parti communiste en 1945, au moment du Matarois, de ce voyage, aurait eu pour mission, s'il rencontrait le monstre trotskiste Castoriadis, de le passer par-dessus bord. Hein, moyen de régler son sort au trotskiste. Et manifestement, quand même, ce qu'a dit à une de ses filles Castoriadis, c'est que, quand même, de toute façon, là, elle a le témoignage que. Il y a eu une réunion de cellules dans le train pour savoir ce qu'on allait faire de lui, hein, quand même. Donc, ça a été discuté. Et sa peau a été sauvée, mais de justesse. Et alors, quand il arrive à Paris, déjà formé, il a suivi un cursus qui est un cursus de droit et sciences éco. Donc, le voilà plutôt économiste, mais il a surtout lu de la philo à côté. Mais institutionnellement, universitairement économiste, contrairement à ce que voulait son père. Son père voulait qu'il fasse médecine. Oui, il y a une étrangeté que je dois quand même expliquer, puisque pour en terminer avec la Grèce, c'est que vous avez tous observé, ce qui n'a pas été sans m'interpeller, bien qu'il commence à tomber sérieusement, mais qu'une des caractéristiques de Castoriadis, c'est qu'il n'a pas de cheveux. Bon. Et que non seulement il n'a pas de cheveux, mais il n'a plus du tout de système pileux. Bon. Or, si vous ouvrez le bouquin, il y a un carnet photo, et sur les photos du début, le petit Cornelius, eh ben, il a des cheveux. Là, on le voit, là encore, il y a même des cheveux abondants. Bon. Alors, qu'est-il arrivé ? Mais il est arrivé un phénomène médical que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'alopécie. C'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, il a perdu tout son système pileux. Et pourquoi a-t-il ? Alors là, c'est très clair, même si je n'aime pas beaucoup les systèmes de causalité simples et que, évidemment, un biographe ne peut pas faire de psychanalyse sauvage de celui qu'il biographie, même s'il le connaît par les archives, les témoignages, etc., et l'enquête qu'il mène. C'est que là, c'est très clair. Il perd sa mère à ce moment-là. Et c'est à la suite de la disparition de sa mère. Il était enfant unique. Il s'est occupé de sa mère jusqu'au bout. Sa mère est morte du stade final de la syphilis, c'est-à-dire dans la folie la plus totale et dans l'incontinence. Et qui est-ce qui nettoyait, qui est-ce qui s'occupait de sa mère corporellement ? C'était le petit Cornelius, et on comprend donc le choc, lors même que son père, homme à femme comme sera son fils, convolait ici et là, et ne s'occupait pas beaucoup de son épouse. Bon, à qui, vous avez compris, il a tout à fait gentiment donné cette maladie mortelle à l'époque. Alors, donc, à l'insu de son plein gré, évidemment, comme dit le cycliste Virenque. Vous avez là une situation, évidemment, traumatique, qui fait qu'on comprend un petit peu la suite lorsqu'il passera sur le divan. Le fait qu'il passe sur le divan, il y a aussi des motivations intellectuelles, mais pas seulement. mais pas seulement. Il y a aussi des raisons personnelles. Ce qu'il dit d'ailleurs au bon plaisir de France Culture, sans s'attarder, hein, c'est des raisons personnelles que vous voyez bien là dans le paysage. Alors, il arrive à Paris et qu'est-ce qu'il fait à Paris ? Il s'inscrit en thèse de philo. Donc, effectivement, là, il va toujours vers un savoir qui l'attire terriblement depuis le début, qui est la philosophie spéculative et très épistémologique, puisqu'il va voir vraiment Poirier, pas celui qui sort un bouquin là, mais un grand épistémologue. Il veut travailler sur l'axiomatique des mathématiques et l'axiomatique philosophique. Voyez voir une espèce d'axiomatique compatible entre l'axiomatique des mathématiques et philosophique. Oui, un projet un peu vraiment prométhéen. Et en même temps, il est trotskiste, membre de la 4e internationale. Ben, il s'inscrit à la 4e internationale en France, hein, à la section française. Petit groupe, minuscule. Aussi un petit corpuscule minuscule, parce que il faut bien comprendre, et vous le savez, mais je vous le rappelle, parce que les catégories de pensée évidemment ont beaucoup changé depuis 1945 et 2015, c'est que à l'époque, en 45-46, l'Union soviétique était un pays qui était présenté. Alors certains disent bon, il y a quelques bavures, mais grosso modo, le bilan est globalement positif, hein, en 45. Et il est plus que globalement positif. Il y a un engouement pour l'Union soviétique extraordinaire. On interroge les... Il y a des sondages qui le montrent, d'ailleurs. On interroge les Français. Quel est le pays qui a permis de se libérer du nazisme le plus ? Ben, c'est pas le D-Day et ceux qui ont effectivement traversé ce pays pour le libérer. C'est l'Union soviétique, à plus de 60%. Bon, c'est Stalingrad. Donc, il y a un rayonnement... Donc, pour être critique par rapport à l'Union soviétique, vous voyez, il faut le faire. Bon, et en tant que trotskiste, évidemment, il est critique par rapport à l'Union soviétique. Et puis, le Parti communiste était une force énorme en France. Hein, premier parti de France, je veux dire, 27-28% hein, dans les élections. Il était au gouvernement, tripartite, etc. Sous la présidence du général de Gaulle. Puis après, sans. Bon. Sous Ramadi. Donc, voilà le contexte. Là-dessus, il adhère donc à la 4e internationale et petit groupe, et il s'exprime. Donc là, il arrive et puis il fait part de son expérience grecque en disant que. Il commence par dire, ce qui fera la rupture avec le trotskisme aussi, que c'est difficile quand même de parler de défense de l'Union soviétique. Parce que vous savez, pour les trotskistes, la révolution est une révolution trahie. C'est une révolution défigurée. Je reprends là les titres même de Léon Trotsky. Certes, mais c'est quand même la révolution d'octobre. Il y a quand même une collectivisation des moyens de production, une planification, c'est pas le capitalisme. Il y a un acquis d'octobre. Bon. Et donc, en dernière instance, il y a une confrontation entre le capitalisme et occidental et l'Union soviétique. Il faut défendre l'URSS. Voilà le mot d'ordre de la 4e internationale. En dernier instant, il faut défendre l'URSS. Même s'il faut la critiquer, même s'il faut renverser la bureaucratie, il faut le faire. En dernier... Il se réduit, je commence à être très sceptique. Il fait un discours là-dessus. Et à cette cellule, vous avez un couple qui l'entend, béat d'admiration. C'est Claude Lefort et sa compagne, Rilke Walter. Et Rilke Walter a cette sortie absolument extraordinaire et très trotskiste, dans la culture trotskiste, et dit, mais ce type-là, il est génial, il faut faire une tendance avec lui. Pas une tendance. Parce que là, c'est bien connu, c'est trotskiste, vous avez deux trotskistes, il faut trois tendances. Ah, donc, tout de suite, à peine prononcé, il faut une tendance. Et effectivement, ils vont faire une tendance qui va être la tendance Chaulieu-Montal, Chaulieu-Castoriadis, Montal, Lefort, bon. Qui va être à l'intérieur du PCI, mais de plus en plus critique, et critique sur une radicalité de la critique par rapport à l'URSS, hein, disant que c'est finalement, de plus en plus on va, on considère que ce n'est pas le socialisme du tout, hein, même sur le plan économique, bon. Et qu'il est hors de question de défendre l'Union soviétique. Et cela ira jusqu'à la rupture. Hein, la rupture en 1949, où ils vont quitter le Parti communiste internationaliste, rompre avec la 4e internationale, un petit groupe, tout petit, et créer une revue, créer un groupe qui va s'appeler donc Socialisme ou Barbarie. Alors, pourquoi Socialisme ou Barbarie? Pourquoi cette alternative, Socialisme ou Barbarie? On est en 49. Et là encore, il faut se replonger à l'époque qui n'est plus la nôtre, quoique aujourd'hui, on y reviendra peut-être, mais il y a une, me semble-t-il, une actualité de cette alternative socialisme ou barbarie, mais qui, évidemment, en d'autres termes que la manière dont ça se posait en 49. En 49, on est dans un moment de guerre, qu'on appellera ensuite guerre froide, mais qui, à l'époque, où il faut se remettre dans l'indétermination de l'époque, hein, on n'était pas encore les théories du containment, etc., et de guerre froide, on était dans une idée d'imminence d'une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale. Imminence. Il faut se remettre dans l'esprit de l'époque et des discussions qui ont été celles de l'époque. Je pense par exemple à la discussion qu'avaient Sartre et Camus, hein, qui disaient, bon alors, donc l'armée rouge va arriver en France, là, jusqu'à Bordeaux, jusqu'à la mer, qu'est-ce qu'on fait, hein? Donc Camus, Sartre, toi tu restes, toi tu t'exiles, tu combats à l'intérieur, etc. Non, voilà, et c'était des hypothèses sur lesquelles, en buvant le café, en se lavant les dents, on discutait. C'était quotidien, c'était là, quoi, là. Et d'ailleurs, les textes de Castoriadis, enfin de Chaulieu dans SOUB, c'est de dire, mais les gens ne comprennent pas, la guerre mondiale, la troisième guerre, ce n'est pas pour dans quelques années, elle est là, c'est pour la fin du mois, là, elle est programmée, etc. Donc, effectivement, il y a l'idée catastrophiste, hein, mais c'est l'esprit d'époque, de l'imminence de la guerre mondiale, et que la seule manière de sortir de la nasse, d'un choc frontal et mondial entre les deux blocs, c'est de créer une troisième voie, qui soit ni celle du capitalisme, ni celle de la bureaucratie, mais qui soit celle du socialisme. Hein, donc effectivement, socialisme ou barbarie, ou la barbarie de la guerre, hein, et si un des deux blocs l'emporte, c'est la barbarie qui triomphe, ou une autre voie qui bat. Et alors, là, effectivement, une des autres caractéristiques de ce groupe, c'est que la critique du phénomène bureaucratique, ils n'en ont pas le monopole. Bon, d'autres ont effectivement analysé ce phénomène. Et je pense évidemment à Raymond Aron, qui a analysé tôt le phénomène bureaucratique soviétique. Seulement, la particularité ici des Castoriadis, Lefort, etc., c'est de tomber à gauche. C'est-à-dire que, et de refuser de dire, voilà, on est dans le camp du capitalisme pour résister à la logique bureaucratique. On n'est d'aucun camp. Là, on reste axé vers une construction d'un socialisme qu'il faut définir. D'où d'ailleurs ce texte énorme que va publier, parce qu'il publie des articles qui sont de véritables bouquins, Castoriadis dans le socialisme au barbarie, sur le contenu du socialisme, hein, qu'il définit dans le milieu des années 50, et où il fait, là où il réussit un apport théorique qui me semble tout à fait intéressant, qui sera d'ailleurs ensuite utilisé plus tard par la deuxième gauche, des gens comme Rosan Vallon, la CFDT, la Revue Esprit, Domnac, etc., dans les années 70, qui est le fait que la coupure ne se joue pas tellement en termes de propriété privée des moyens de production, propriété d'État des moyens de production, pour le socialisme au barbarie, c'est pareil, pour les travailleurs et les salariés. La contradiction sociale, elle se joue entre les dominants, ceux qui décident, et ceux qui exécutent. Bon. Ce qui est une conception, d'ailleurs, qui élargit beaucoup le champ de la contradiction sociale, parce que ça ne se délimite pas seulement dans les entreprises privées, industrielles, etc., détenues par le patronat capitalistique, mais ça veut dire aussi que les débats qui auront lieu plus tard sur les nationalisations, la planification, sont de faux débats sur les avancées du socialisme. Par contre, la question de l'autogestion, par exemple, la question des travailleurs de l'IP, 1973, etc., sont beaucoup plus près de ce à quoi vise, ou le conseillisme ouvrier dans la Hongrie de 1956, sont beaucoup plus près de ce vers quoi vise socialisme ou barbarie, comme ce qu'est le socialisme. Voilà. Donc ça, c'est un apport majeur et un déplacement par rapport au marxisme traditionnel. Et puis, petit à petit, Castoriadis deviendra de plus en plus critique par rapport au marxisme, ce qui va créer des remous. Alors, il y aura plusieurs remous, hein, je vous passe, parce qu'on a un temps quand même limité, sur l'histoire de socialisme ou barbarie. Il y aura une scission, la première scission en 58 avec Lefort sur la question de l'organisation, parce que Lefort considère que, l'organisation est trop centralisée, etc., qu'il faut rompre avec une organisation centralisée, il faut simplement avoir une organisation horizontale de diffusion de l'information. Donc, il y aura rupture, la moitié de l'SOUB partira. Bon, la moitié, c'est-à-dire sur 40 personnes, il y a 20 personnes qui vont partir, vous voyez. C'est sur des chiffres un peu ridicules. Cela dit, les chiffres de la revue ne sont pas aussi ridicules que ça, parce qu'en rythme de croisière, ils vendent quand même à 700, 800 exemplaires, 1000 pour les bonnes années, ce qui n'est pas rien, parce que quand vous vendez une revue à 700 exemplaires, ça veut dire évidemment beaucoup plus de lecteurs, et ces revues sont gardées comme des par ceux qui les ont comme des icônes, évidemment, sont extrêmement précieuses. Donc c'est pas aussi ridicule que je le dis là. Bon, et ensuite. Castoriadis, alors, dans les années, fin des années 50, début des années 60, va prendre ses distances de plus en plus critiques et va plonger dans les textes pour élaborer une critique de Marx jusqu'à construire ce fameux texte qui va être le début de l'institution imaginaire de la société, qui est son grand livre, l'institution imaginaire de la société, mais qui est un livre de briquet de broc, puisque ça commence par ces très longs textes qui est « Marxisme et théorie révolutionnaire », qui est déjà paru dans « Socialisme ou barbarie », et qui dit bien ce qu'il veut dire. Le marxisme et la théorie révolutionnaire. Ça veut dire que le marxisme n'est pas une théorie révolutionnaire. Bon. Qu'il faut construire une théorie révolutionnaire, mais que le marxisme ne l'est pas. Et il critique là de manière véhémente le marxisme, comme économicisme, dans son réductionnisme, comme téléologie historique, comme dans son incapacité à analyser la société moderne. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, dans les années 50-60, on est au cœur des Trente Glorieuses, et on ne voit pas tellement, en tout cas en France, l'analyse selon la paupérisation, par exemple, absolue de la classe ouvrière. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on constate. Bon, donc y a là quelques adaptations quand même à faire, ne serait-ce que sur le plan économique. Et il devient de plus en plus critique, certains créant là encore quelques résistances au sein du groupe, ou certains, notamment Lyotard, c'était assez drôle parce que Lyotard, dont on connaît après, la position très ultra critique par rapport au marxisme, avec la condition postmoderne et tout le reste de son œuvre dans les années 70, va se trouver dans les défenseurs de l'orthodoxie dans le début des années 60. Et Lyotard, avec Souiri, l'historien Souiri, et puis l'ancien bordigliste Vega, ancien militant du POUM, vont être dans la défense de l'orthodoxie et vont rompre avec Castoriadis, qui va se retrouver là encore avec un groupe extrêmement amoindri en 1963. Et puis en 65, ils seront plus que 10. Là, il va dire, bon, allez, ça suffit. Et encore, non, 65, c'est le dernier numéro. C'est en 67 qu'ils sont 10. Et là, il y a un vote qui ne se joue qu'à une voix de majorité. Une voix de majorité, ils décident la fin. Mais paradoxalement, c'est le paradoxe, parce qu'ils décident la fin de leur mouvement en 67. Alors, vous savez, après 67, il y a eu 68. Et que ce qui s'est passé en 68 sur le plan international, mais surtout en France, ne pouvait que les combler, ne pouvait que être exactement le rêve éveillé qui se passait dans la rue et dans les usines et dans les facs, cette autonomie, etc. Or, il n'y a plus de socialisme, ils viennent de disparaître en 67. Il y a une situation là paradoxale. Mais en 68, socialisme ou barbarie a en fait été très présente. Je vais vous dire comment. Alors, pas tellement par le texte de Coudray. Bon, il a distribué ce texte. Il était encore grec, il n'avait pas de nationalité française, donc c'est un énorme texte de 15 pages, renéotypé, distribué ici et là. Enfin, bon, c'est pas ce texte qui a eu un grand effet. Le texte de la Brèche, oui, mais c'est un peu après, c'est une analyse à chaud déjà, le mouvement est sur le reflux. Mais par contre, là où les thèses de socialisme barbare et castoriadis ont beaucoup joué, c'est, je le dis dans mon livre, c'est par l'influence qu'ils ont eue sur le mouvement du 22 mars et le leader bien connu du mouvement du 22 mars, qui est un certain Daniel Cohn-Bendit. Je le dis dans le livre, et d'ailleurs Cohn-Bendit s'en est exprimé, ça a été expliqué dans les premiers livres qu'il a publiés dès 68. Mais il se trouve qu'à l'occasion de la sortie de mon livre, j'ai à la Maison de la Poésie à Paris eu un débat. Autour du livre et de la personnalité, surtout de Castoriadis, avec Daniel Cohn-Bendit en personne. Et Cohn-Bendit a une question qui était posée dans la salle, quelqu'un qui dit: mais est-ce que Castoriadis s'est exprimé à la Sorbonne en 68? Alors je dis non. À la fois, il marchait sur un nuage, mais il faisait attention, surtout qu'avec la dictature grecque, il n'avait pas intérêt à se faire reconduire aux frontières. Bon, il faisait attention, et on ne peut pas dire qu'il soit comme ça mis en valeur dans le mouvement de 68 en tant que leader agitateur, etc. Bon, réponse purement factuelle. À côté, Cohn-Bendit a répondu, à juste titre, dit: si, si, Castoriadis s'est exprimé à la Sorbonne. Il dit: c'était moi. J'ai un côté, il dit, ventriloque. Quand j'intervenais à la Sorbonne, c'était du Chaulieu, c'était du Castoriadis, parce que j'étais nourri de ces textes. Hein. Et ce que je disais, je l'empruntais purement et simplement aux textes que j'avais lus de Castoriadis. Et donc, c'est Castoriadis qui s'exprimait à la Sorbonne. Voilà. Manière tout à fait. Reconnaissance de dette, là, tout à fait très très honnête de sa part et très juste, hein, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il a été, par son frère aîné, Gabriel, amené à lire régulièrement. Et il s'est effectivement nourri, et dans les cours qu'il suivait d'Alain Touraine et autres, d'ailleurs, il contestait un peu les thèses de Touraine en s'appuyant sur les textes qu'il lisait de Chaulieu dans Socialisme en barbarie. Alors, donc, voilà, sur. Trop rapidement dit, évidemment, sur cette expérience de socialisme ou barbarie. Et alors, il va y avoir un tournant à la fois personnel, professionnel, etc. Et alors, pendant tout ce temps où il fait ses textes, il est aussi haut fonctionnaire à l'OCDE. Hein, allez, grand étonnement d'ailleurs de ses camarades de socialisme ou barbarie, qui il raccompagne chez eux dans sa Cadillac, hein, parce qu'à l'époque, quand on est fonctionnaire international, on a l'essence gratuite. Donc, il aimait les grosses voitures. Donc, et puis, ça pouvait contenir beaucoup de membres, presque tout socialisme ou barbarie. Donc, c'était pratique. Voilà. Fin de. Et il y a un moment donc de basculement où il va passer. C'est aller évidemment un peu vite en besogne que de le dire, mais il y a un mouvement intellectuel qui passe, disons, de Marx à Freud. Bon. Qui passe de Marx à Freud tout en gardant la perspective du changement social, de l'histoire, du social historique, de la créativité historienne, hein, à la fois esthétique et de la création sociale. Bon. Ce n'est pas seulement. Le repli sur la psyché coupée du social historique. Mais c'est la volonté d'articuler les deux. Et dans cette volonté d'articuler les deux, il va alors passer sur le divan, je vous l'ai dit, et suivre le séminaire. Alors, le séminaire, hein, à l'époque, il y en avait beaucoup, mais il y avait surtout un séminaire qu'il fallait absolument suivre, même quand l'animateur de séminaire n'était pas là. Ça, j'ai des témoignages de gens qui allaient quand même aux heures du séminaire, même s'il n'était pas là, parce que son esprit était là. J'ai même le témoignage de quelqu'un, un béotien, qui a dit: c'est drôle, il est pas. Lacan n'est pas là encore. Il est pas. Et il a été pris pour un Béotien, les types, il était en train de dire, il savait très bien qu'il n'allait pas venir. Mais ils étaient là à l'heure, parce qu'il y avait une inspiration. Donc, évidemment, vous avez tous compris que c'était le séminaire de Lacan, et notamment quand ce séminaire était à Ulm, à l'École normale supérieure, où c'était quand même le must de la vie parisienne que d'être présent à ce séminaire. Mais, outre ce séminaire, Castoriadis a suivi aussi le séminaire de Claverol, le séminaire de Serge Leclerc, et le séminaire d'une grande psychanalyste d'origine italienne, et psychanalyste importante, animatrice de revue aussi, etc., qui est Piera Olanier. Et il va se marier avec Piera Olanier en 1968. Il vivra avec elle jusqu'en 1977. Donc pendant un bon moment, et là, j'ai, dans mon enquête, découvert que l'influence là de Piera Olanier est tout à fait majeure, et qu'il y a eu un échange intellectuel extrêmement fort entre Piera Olanier et Castoriadis, au point d'ailleurs qu'ils ont tenu l'un et l'autre à ce que leurs livres importants, ils en ont fait beaucoup, mais majeurs, paraissent la même année, 1975. En 1975, en effet, est publié au Seuil, dans la collection Esprit du Seuil, d'ailleurs, rappelons, par Jean-Marie Domnac, hein, qui est l'éditeur de ce livre, directeur d'Esprit à l'époque, le livre qui est le maître ouvrage de Castoriadis, L'institution imaginaire de la société, et paraît en la même année La violence de l'interprétation, grand livre de Piera Olanier, aux presses universitaires de France. Or, ils ont généré ces deux livres vraiment ensemble. Ça ne se voit pas, quand on les lit, il y a peu de renvois, comprends, discrétion, de l'un à l'autre. Donc ça ne suffit pas de voir les notes infrapaginales. Mais ils se sont échangés les chapitres au fur et à mesure de l'élaboration de ces deux livres. Or, ce que cherche justement Castoriadis, et ce qui fait sa richesse dans le domaine des sciences humaines, car je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été aussi loin dans ce qui est un défi pour toute science humaine, que soit l'anthropologie, l'histoire, qui est ma discipline, hein, je tiens à dire que j'aurais dû commencer par là, je ne suis pas philosophe, hein, je ne suis qu'historien, et je tiens à c'est mon cursus, c'est mes diplômes, c'est bon. Donc je suis historien, et dans toutes les sciences humaines, le grand problème, c'est l'articulation de l'individu et du collectif, du sujet et des structures. Et on est passé... Edgar Morin et Castoriadis l'ont longtemps dénoncé, d'une divinisation de l'homme, les structures ne jouent plus rien, ou d'une divinisation des structures, pensez au structuralisme, j'ai écrit aussi l'histoire, et le sujet, c'est un procès sans sujet, bon, où on théorise la mort de l'homme. Bon, donc, on est passé d'un extrême à l'autre, et d'ailleurs ça a été théorisé comme tel, un certain Louis Althusser disait qu'il fallait penser aux extrêmes, donc c'est clair. Bon. Alors, chez Castoriadis, il y a au contraire l'idée d'articuler sans réductionnisme, sans rabattement appauvrissant d'une dimension à l'autre, et sans non plus les ajouter l'une l'autre, comme fait un Reich, par exemple, qui ajoute un peu les deux dimensions. Bon. Et je pense que là, sa culture psychanalytique qui s'est acquise, le fait qu'il s'est professionnalisé à partir de 1973, il passe tous ses après-midi avec ses patients. J'ai eu les témoignages d'un certain nombre de ses patients qui sont passés sur le divan de Castoriadis. Bon, et le discours intellectuel, l'échange intellectuel avec elle, fait que sur la question fondamentale, et fondamentale aussi pour nous historiens, de l'imaginaire, il apporte beaucoup. Et là, sans rabattement, c'est-à-dire qu'il articule, il étaye, disons pour reprendre un terme freudien, il étaye l'imaginaire radical qui vous poursuit toute votre vie et qui est, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ce qui est ce que Piera Olanier assigne comme le stade du pictogramme, cet imaginaire radical qui est, s'articule après avec l'imagination sociale. Et ce rôle évidemment majeur qu'il va assigner dans l'histoire et dans la compréhension de l'historicité à l'imaginaire. Alors je voyais dans la revue L'Histoire que nous rentrons dans une année Duby. Bon, grand historien médiéviste. Or, Duby, par exemple, va publier en 78, 3 ans après l'institution imaginaire de la société, un ouvrage qui s'appelle « Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme ». Alors, je ne dis pas que c'est un livre castoriadien, ça n'aurait pas de sens. Mais Duby a dit « Tenir ce titre d'un livre sorti peu avant d'un certain Castoriadis, l'institution imaginaire de la société ». Pour montrer la force ici, hein, les trois ordres, voilà. ça a eu une longue durée, la force de l'imaginaire, le fait que les sociétés marchent à l'imaginaire social. Bon. Voilà, bon, on le voit, et parfois pas pour les meilleures causes. Bon, c'est là où, effectivement, il y a un travail sur l'imaginaire à faire. Cet imaginaire est, par rapport à ce que Castoriadis appelle la pensée héritée, il dit on a toujours secondarisé cette dimension. Secondarisé. Et même s'il prend, parce qu'il a été lacanien, il a été dans l'école lacanienne, il dit l'imaginaire, c'est l'imaginaire spéculaire. Ce qui compte dans la trilogie lacanienne de RSI, réel, symbolique, imaginaire, c'est la dimension symbolique. C'est le signifiant pur. C'est pas l'imaginaire. Bon. Et lui va... Et quand il prend l'histoire de la philosophie, il dit... il salue Kant et l'importance que Kant attribue à l'imaginaire, à l'imagination, mais en même temps, secondarisé par rapport à l'entendement. Donc là encore, ce n'est pas totalement satisfaisant. Si, il va trouver chez Husserl la phénoménologie des choses, mais encore pas totalement satisfaisant parce qu'il y critique le solipsisme. Bon. Donc, il va constituer là une philosophie qui accorde comme moteur de l'histoire l'imaginaire social. Et c'est là où ça m'a beaucoup ému parce que j'ai dans les archives que j'ai été là, comme ayant fait la première biographie, j'ai eu accès aux archives grâce à, et je tiens à la remercier à chaque fois, à la générosité de son épouse Zoé Castoriadis qui m'a ouvert ses portes et j'ai dû squatter un peu son appartement pendant pas mal de temps pour lire les archives. Et donc effectivement, là j'ai perdu le fil. je suis resté dans l'appartement là, et du coup, je ne sais plus ce que je disais.
Donc vous étiez en fait non, voilà vous raconter comment vous étiez donc chez Zoé Castoriadis sur voilà l'imaginaire social. Hein.
Oui. Alors pourquoi le moteur de l'histoire, alors oui. ça revient pas, c'est drôle. ça revient pas. Bon, mais bon, ça, tant pis. Donc effectivement, l'imaginaire social est un point fondamental de bon et donc d'articulation du collectif, comme je disais, et de l'individu. Alors. Là où il me semble y avoir une actualité, évidemment, de Castoriadis aujourd'hui, actualité politique, c'est que, outre sa philosophie, qui dans les sciences humaines nous apporte beaucoup, à une finesse, à un refus du réductionnisme, bon, il s'est opposé au structuralisme et à certains mécanismes de la pensée. Bon. Il s'est aussi débarrassé d'une certaine téléologie historique à juste titre. Et donc c'est une pensée de l'événement, c'est une pensée du kairos. Bon. Mais en même temps, il a avancé un certain nombre de concepts qui sont, me semble-t-il, extrêmement féconds pour penser l'aujourd'hui et la crise que nous traversons. Crise que j'appellerais donc une crise de notre régime d'historicité aujourd'hui. C'est-à-dire, pour aller vite, et chose que vous connaissez peut-être par l'historien François Hartog, qui a thématisé un peu cette question du régime d'historicité, et ce qu'il qualifie le présentisme. Bon. Eh bien, Castoriadis avait déjà perçu le présentisme, ce qu'il appelait le règne de l'insignifiance. Hein, c'est les titres des Carrefours du Labyrinthe, le règne de l'insignifiance. Il allait même un peu trop loin, on y reviendra peut-être. Bon, je ne suis pas sur tout ce qu'il dit sur cette insignifiance. Mais il avait bien perçu qu'il y avait une crise du futur et que cette crise du futur changeait notre rapport au passé. C'est-à-dire que notre rapport au passé n'était plus un rapport au passé pour construire notre devenir, c'était un rapport au passé qui s'était touristiqué, si vous voulez, qui était devenu purement patrimonial et touristique. Lorsque Castoriadis dit on va voir aujourd'hui le Parthénon comme on va photographier les chutes du Niagara, pour se faire un selfie. Donc, effectivement, ce n'est plus du tout pour construire le monde de demain. Ce rapport, il voit quelque chose qui est tout à fait juste et qui n'a cessé de se développer, y compris depuis qu'il a disparu, c'est-à-dire en 1997. Donc, à partir de là, il nous invite à nous ressourcer dans l'histoire, non pas par mélancolie, non pas avec le discours de dire « c'était mieux avant, tout fout le camp ». Heureusement qu'il ne tient pas ce discours-là, qui est tenu par beaucoup et de plus en plus nombreux, qui disent on se suicide collectivement, tout va mal, qu'est-ce que c'était bien avant, qu'est-ce que ça ne va pas aujourd'hui, et alors demain, j'en parle même pas, heureusement que je ne serai plus là, etc. Bon. Donc ce discours de déploration, qui fait penser, dans sa version d'Oxa, au discours très quotidien qu'on entend. J'ai fait beaucoup de lycées. J'ai enseigné 20 ans dans un lycée. Donc, c'est un discours qu'on entend depuis toujours dans les salles des profs. Ils ne savent plus l'orthographe, c'est fini. Moi, dans mon temps, c'était autre chose. On les matait d'abord. Bon. Voilà. Non. Alors, il ne tient pas ce discours complètement parce que il voit dans l'histoire... un futur antérieur, c'est-à-dire un futur du passé, et notamment lorsqu'il nous invite à revisiter ce qu'il appelle le germe grec. Alors certains le critiquent en disant grec qui dit il faut visiter le germe grec, tout ça pour ça. c'est un hellénocentré, c'est la grécitude. On ne peut pas le critiquer sur ce plan-là. Ceux qui le critiquent, parce que d'abord, il a toujours été très antinationaliste quand il était en Grèce. Alors là, ses premières critiques, etc., sur le stalinisme, c'est l'acceptation d'un nationalisme qu'il ne supportait pas, au nom justement de l'international et des valeurs universelles. Et il est particulièrement dur sur la Grèce moderne. Quand on l'interroge sur la Grèce moderne, quand il écrit sur la Grèce moderne, il n'y a pas plus dur que lui. On lui dit, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la vie politique? On est là dans les années 80-90. Vous pensez de la vie politique grecque? Il répond, la vie politique grecque, monsieur, s'est arrêtée en 404 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire les débuts de la guerre du Péloponnèse. Depuis, il n'y a plus rien. Donc c'est dire qu'il est radical avec la Grèce moderne. Mais il est suivi par un Vidal Naquet. Il est en état extatique ses cours qui sont publiés au Seuil sur ce qui fait la Grèce, etc., le montrent, devant ce qu'a été la Grèce classique, la Grèce archaïque et classique, où là, il y a eu une innovation, véritable invention. Invention, c'est là où est née la philo, où est née l'histoire, François Châtelet, l'invention de l'histoire, la philo, et surtout la démocratie. Et c'est là son modèle de révolution. C'est-à-dire, quand on entend révolution aujourd'hui, évidemment, ça sonne mal. C'est-à-dire, on vous dit, vous êtes pour, comme ça, des sauts d'hémoglobine, vous voulez couper combien de têtes, etc. Mais lui, il dit, les révolutions, c'est pas forcément sanglant. La révolution clisthénienne à Athènes n'est pas une révolution sanglante, il n'y a pas une mort. Il dit par contre, la barbarie peut être amenée par des événements qui ne sont pas des révolutions. Hitler est arrivé au pouvoir grâce aux élections. Alors il a poussé un peu avec les SA, mais sinon c'est les élections qui l'ont porté au pouvoir, et Hindenburg qui l'a appelé. Il peut y avoir la barbarie amenée par les urnes et des révolutions démocratiques qui ne sont pas forcément sanglantes. Et donc là, il y a en effet ce qu'il appelle, non pas un modèle, il ne dit pas revenons à l'Agora, construisons un Parthénon sur le champ de Mars, et puis on va s'habiller à la Grèce ancienne. Non, évidemment pas. Ce n'est pas pour faire du folklore, c'est évidemment à adapter à la société moderne, mais il y a là un germe qui doit nous être utile, parce que pour lui, alors là, on peut en discuter, pour lui, il n'y a de démocratie que de démocratie directe. C'est-à-dire que, là, il rappelle l'étymologie, demos kratos, le pouvoir du peuple, demos le peuple, le pouvoir du peuple. Une démocratie, pour lui, représentative, est une oligarchie, n'est pas une démocratie, est une négation de la démocratie. Alors, bon, ça pose tout le problème des anciens, des modernes, de l'évolution de la pensée libérale, Benjamin Constant, Locke, etc., tous ceux qui, au 18e, ont thématisé la démocratie représentative. Bon, voilà, le débat est ouvert, mais on sait aujourd'hui, par la crise que l'on connaît dans notre démocratie, la coupure de plus en plus grande entre la culture d'experts et le peuple, ceux que d'aucuns appellent les vrais gens, que cette coupure montre des failles dans notre vie démocratique et que la barbarie est à nos portes. Bon, on le sait de plus en plus. Et que ce qui, dont on pâtit aussi, c'est l'absence d'horizon d'attente, pour reprendre une catégorie que Selleck aime bien Paul Ricoeur, et donc de futur, de projet. Une société qui n'a plus de projet, une société qui est dans la commémorite aiguë, c'est une société malade. Et là, il nous aide à réinsuffler, parce qu'il était dans un projet, là aussi prométhéen, qui inabouti, inachevé. Il est mort avant d'avoir réalisé. Il avait un contrat d'édition, d'ailleurs absolument énorme, avec Le Seuil, qui était 18 volumes sur la création humaine. Il n'en revenait pas, d'ailleurs. Ils ont signé 18 volumes sur la création humaine. Vous voyez, et effectivement, tout le travail, et je vais vous laisser aux questions, ouais. Je terminerai par là, parce que c'est encore un terme que je n'ai pas prononcé, qu'il faut prononcer à propos de Castoriadis, c'est que cette création humaine ne peut être faite qu'en valorisant par tous les moyens, tous les savoirs, la PDIA, l'éducation, le travail sur la psyché, le travail politique, notamment, ces trois fers de lance, de travailler sur l'autonomie. Là, il différencie l'hétéronomie et l'autonomie. L'autonomie à la fois individuelle, l'autonomie personnelle et l'autonomie collective, et l'autonomie du collectif, de la société. Bon. Des gens qui font des choses ensemble, un être ensemble, et qui définissent leur être ensemble, sans loi supérieure, sans injonction du haut ou du bas, mais entre eux. Et donc là, pour lui, ça c'est un peu l'utopie castoriadienne, c'est effectivement cette construction à partir de l'autonomie de la démocratie.
Merci beaucoup. Je suis désolé, on est vraiment pris par le temps là. Donc merci encore François Dos. Après, on pourra peut-être discuter 2 minutes devant. Voilà. Merci beaucoup.